Bienvenue pour cette exploration en profondeur des mécanismes, qui façonnent notre météo au quotidien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment fondamental, la frontologie, donc l'étude des fronts atmosphériques, et puis aussi le cycle de vie complet d'une perturbation. On va regarder ensemble des documents qui analysent ça pour essayer de comprendre ce qui se passe là-haut. L'objectif, c'est simple, clarifier ce qu'est un front, pourquoi il y en a différents types, et surtout, comment ils s'organisent pour former ces systèmes complexes, les perturbations, qui décident un peu de notre météo. Alors, prêt à décoder ce ballet des masses d'air, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un front atmosphérique ? Les documents parlent d'une zone de transition dans la troposphère, c'est là que ça se joue.
Oui, c'est exactement ça. Alors, plus techniquement, on parle d'une interface, en trois dimensions. C'est une zone où il y a une discontinuité assez nette entre deux masses d'air qui ont des propriétés physiques différentes. Principalement la température, bien sûr, mais aussi l'humidité, la densité. Ce n'est pas juste une ligne sur une carte, c'est plutôt une zone de transition plus ou moins large où les températures changent vite. Et c'est vraiment cette zone de contact très active qui est à l'origine des phénomènes météo les plus marquants. Les nuages, la pluie, le vent qui changent.
D'accord, une zone de contact active, je retiens ça. Mais cette zone, elle n'a pas toujours le même caractère, si. Les documents décrivent plusieurs types de fronts, chacun un peu sa personnalité. On pourrait commencer par celui qui a la réputation d'être le plus agité, le front froid.
Ah oui, le front froid. Le scénario classique, c'est ça, hein ? Une masse d'air froid qui est plus dense, elle avance, elle tombe sur de l'air chaud, plus léger. Du coup, l'air froid, il passe dessous et il force l'air chaud à monter.
Exactement. Et ce qui est décrit, c'est que ce soulèvement est souvent brutal.
Rapide. Le passage au sol peut être assez soudain, avec le vent qui tourne, la température qui chute, parfois c'est net. Et pour les nuages, là on parle des gros calibres, les cumulonimbus, ces fameux CB, non ? Ces énormes nuages verticaux qui donnent les grosses averses, les rafales, parfois même des orages, de la grêle. Tout à fait. La dynamique du front froid, elle est caractérisée par une pente très très forte, très inclinée, presque verticale près du sol en fait. Ça agit vraiment comme un coin, un peu comme un bulldozer, oui, qui soulève l'air chaud de façon très énergique, mais sur une bande assez étroite. Et c'est cette convection forcée, très puissante, qui explique pourquoi les phénomènes sont souvent intenses, mais assez courts. On peut vraiment passer d'un temps calme à des conditions très agitées en quelques dizaines de minutes. C'est aussi pour ça que le ciel se dégage souvent assez vite après le passage du front froid, même si l'air, lui, reste instable derrière.
À bulldozer atmosphérique. Ouais, l'image est parlante. Bon, à l'opposé, on a le front chaud. Là, le schéma est inversé, c'est ça ? C'est l'air chaud qui avance vers une zone d'air froid.
C'est ça.
Et comme il est plus léger, l'air chaud, il ne peut pas passer dessous. Il va glisser par-dessus l'air froid.
Voilà. Exactement. La pente d'un front chaud est beaucoup plus douce, beaucoup moins inclinée que celle d'un front froid. L'ascension de l'air chaud sur l'air froid est très progressive. Elle se fait sur une distance horizontale bien plus grande. Et ce mouvement ascendant, lent et généralisé, ça favorise plutôt la formation de nuages en couches, les nuages stratiformes. Typiquement, on voit une séquence bien précise quand un front chaud approche. D'abord, on a les cirrus, tout là-haut, fins, puis les cirrostratus, ceux qui font parfois un halo autour du Soleil ou de la Lune, ensuite les altostratus, le ciel devient plus laiteux, et enfin les nimbostratus, les N.
Ah oui, les nimbostratus, les grandes couches grises épaisses qui donnent cette impression de ciel bas, un peu plombé. Et c'est eux qui amènent les précipitations du front chaud.
Tout à fait.
Des pluies ou des neiges souvent continues, d'intensité plutôt faible à modérée, mais qui peuvent durer longtemps, plusieurs heures, et couvrir de grandes zones. D'ailleurs, le passage du front chaud au sol est décrit comme plus diffus, plus étalé que pour le front froid. Parfois, c'est même difficile de savoir exactement quand il est passé, non ? La température monte doucement, le vent tourne progressivement. C'est une excellente description de cette différence fondamentale. Le front froid, un soulèvement rapide, concentré, des phénomènes brefs et intenses. Le front chaud, une ascension lente, étendue, des phénomènes plus durables, plus généralisés. Comprendre ça, c'est vraiment la clé pour lire la séquence météo.
Bien compris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre acteur important qui entre en jeu. Le front occlus. Le mot occlusion, ça suggère quelque chose qui se ferme, qui se rejoint. Comment ça se forme, ça ? Alors, l'occlusion, c'est le résultat de la maturation, quasi inévitable, de la plupart des perturbations sous nos latitudes. Ça vient directement de la différence de vitesse entre le front froid et le front chaud. Dans la même dépression, comme on l'a dit, le front froid en général y va plus vite que le front chaud qui est devant lui.
Et pourquoi cette différence de vitesse d'ailleurs? C'est quasi systématique. C'est juste que l'air froid est plus dynamique.
C'est un peu plus complexe que ça. Les vitesses de déplacement, elles sont surtout dictées par les vents en altitude, le fameux courant G. Mais l'air froid, comme il est plus dense, il s'écoule souvent plus facilement au sol, il est moins freiné. Et puis, la dynamique même de la dépression, la façon dont elle tourne, a tendance à accélérer le front froid vers l'avant et à ralentir un peu le front chaud. Donc cette différence de vitesse, elle est un peu intrinsèque au système. Et donc, oui, inévitablement, le front froid finit par rattraper le front chaud.
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand ils se rencontrent? L'air chaud qui était coincé entre les deux, il va où?
Il le force à s'élever complètement du sol. Cet air chaud, il se retrouve piégé en altitude. Il est comme pris en sandwich entre l'air froid qui précédait le front chaud et l'air, parfois encore plus froid, qui suit le front froid. Au niveau du sol, dans la zone d'occlusion, on n'a plus cet air chaud d'origine. Il reste juste une langue d'air doux en altitude.
Ok, donc l'air chaud est expulsé vers le haut. J'imagine que ça a des conséquences sur la météo qu'on ressent au sol.
Ah oui, absolument. Le front occlus, il combine un peu les caractéristiques des deux fronts d'origine. On y trouve souvent un mélange de nuages, des nuages stratiformes, hérités du front chaud, et puis des nuages plus convectifs, type cumulus congestus ou même des cumulus, qui sont liés au soulèvement par le front froid. Les précipitations peuvent être assez complexes, parfois continues, comme sous un front chaud, parfois plutôt en averse, comme près d'un front froid. La météo exacte, ça dépend du type d'occlusion. On parle d'occlusion à caractère froid ou chaud, selon si l'air derrière le front froid est plus ou moins froid que l'air qui était devant le front chaud. Mais bon, en gros, c'est souvent une zone de temps assez maussade, pluvieux. Un scénario un peu mélangé, donc. Et il reste un dernier type de front qui est mentionné, le front stationnaire. Le nom est assez parlant, j'imagine.
Oui, en effet. Un front stationnaire, c'est une situation où la zone de contact entre l'air chaud et l'air froid, eh bien, elle ne bouge pas beaucoup. Elle n'a pas de mouvement de translation significatif. Les deux masses d'air, elles peuvent glisser l'une contre l'autre, horizontalement, ou juste rester face à face sans que l'une arrive vraiment à déloger l'autre sur une bonne partie du front.
Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, attention. Il peut y avoir des mouvements verticaux le long de la surface frontale, et donc des nuages, des précipitations.
Et l'implication principale de cette immobilité, c'est quoi?
Passe pas, il reste là.
Parfait. Bon, on a maintenant une bonne idée du casting, si je puis dire. Front froid, front chaud, front occlus et front stationnaire. Maintenant, voyons comment ces acteurs jouent ensemble dans la pièce principale. Le cycle de vie d'une perturbation atmosphérique typique. Comment ça naît, comment ça vit et comment ça meurt un système comme ça?
Alors la genèse, ce qu'on appelle la cyclogénèse, ça démarre souvent le long d'un front stationnaire qui existait déjà ou d'une zone où il y a un fort contraste de température. Une petite ondulation peut se former sur ce front. Souvent, c'est déclenché par une petite perturbation en altitude. Cette ondulation, elle va s'amplifier sous l'effet de la rotation de la Terre, la force de Coriolis et aussi des différences de pression. L'air commence à tourner autour d'un point de basse pression qui se creuse, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans notre hémisphère nord.
Et ça, c'est la naissance de la dépression, et c'est là que les fronts chauds et froids s'individualisent.
Exactement.
À l'avant de la dépression, dans le sens où elle se déplace, l'air chaud commence à monter sur l'air froid. C'est le front chaud qui prend forme. Et à l'arrière, l'air froid commence à pousser l'air chaud. C'est le front froid. Et entre les deux, on a ce fameux secteur chaud. Voilà, la perturbation est née, elle commence sa phase de développement, elle se creuse, la pression baisse sans son centre. Et ensuite, on arrive à la phase de maturité. Avec l'occlusion dont on a parlé, qui semble inévitable, le front froid qui va plus vite rattrape le front chaud. Ça commence souvent près du centre de la dépression, c'est ça?
C'est ça. C'est souvent le stade où la perturbation atteint son intensité maximale. La pression est la plus basse, les vents sont les plus forts. Puis l'occlusion progresse, le front occlus s'allonge de plus en plus et le secteur chaud, lui, se réduit comme peau de chagrin au niveau du sol. L'air chaud est de plus en plus isolé en altitude.
Et après ce pic d'intensité, comment le système finit? Il se désagrège?
Oui, c'est la phase de déclin, ou ce qu'on appelle la frontolyse. Une fois que l'occlusion est bien formée, le moteur de la perturbation, c'est-à-dire le contraste de température entre l'air chaud et l'air froid au niveau du sol, eh bien ce moteur est coupé. L'air chaud en altitude se mélange, petit à petit, il se refroidit. L'air froid en dessous se réchauffe un peu au contact du sol par le mélange. Les contrastes s'atténuent, la structure des fronts se désagrège, la dépression se comble, la pression remonte. Et le système finit par se dissiper. Il laisse derrière lui une masse d'air plus homogène. C'est un cycle complet qui dure en général quelques jours, parfois jusqu'à une semaine.
Impressionnant ce cycle naissance-vie-mort. C'est assez bien réglé finalement. Pour rendre ça encore plus concret, imaginons qu'on observe le passage d'une perturbation classique arrivée à maturité. Quelle serait la séquence météotypique au sol ?
Alors oui, mettons-nous à un point fixe et regardons le système défiler. Tout commence souvent bien avant la pluie, en fait. L'approche du front chaud, elle est annoncée par l'arrivée des cirrus, ces nuages très hauts, fins, un peu fibreux.
Ceux en forme de plume ou de virgule.
Oui, voilà. Puis le ciel se voile progressivement avec les cirrostratus, ensuite il s'épaissit avec les altostratus. Le soleil devient de plus en plus pâle, comme derrière un verre dépoli. Et pendant ce temps, la pression atmosphérique baisse régulièrement.
Et ensuite, le ciel finit par se couvrir complètement.
Avec l'arrivée des nimbostratus. Le plafond nuageux s'abaisse, le ciel devient gris, uniforme, et les précipitations commencent. D'abord faibles, de la brume ou de la neige fine en hiver, puis elles deviennent généralement continues et modérées. Le vent se renforce un peu, souvent du sud ou sud-est chez nous, on est sous le front chaud.
Une fois que ces pluies continues sont passées, on entre dans le fameux secteur chaud. Le temps ressemble à quoi à ce moment-là ?
Alors, le passage du front chaud lui-même se marque par une stabilisation de la température ou même une légère hausse. Le vent tourne, souvent au sud-ouest, et les précipitations continuent, s'arrêtent ou diminuent nettement. L'air dans le secteur chaud est typiquement doux, humide. Le temps peut être variable. Parfois quelques éclaircies, mais souvent des nuages bas, des stratus avec de la brume ou même du brouillard, surtout si on est proche du centre de la dépression. C'est une période d'accalmie relative, mais l'air reste quand même bien chargé d'humidité. Et la pression atteint son point le plus bas.
L'accalmie avant le passage du front froid. Et là, le changement est souvent bien plus net, j'imagine.
Ah oui, très souvent. L'arrivée du front froid est souvent signalée par une ligne de nuages menaçants, des nuages convectifs, des cumulus congestus ou carrément des cumulonimbus. Le vent tourne brusquement, typiquement à l'est ou nord-ouest, et il se renforce nettement, parfois en forte rafale, ce qu'on appelle un grain.
La température chute, parfois de plusieurs degrés, et assez rapidement.
Et les précipitations reprennent, mais cette fois sous forme d'averses, souvent intenses, potentiellement avec des orages, de la grêle. C'est vraiment la partie la plus active, mais aussi souvent la plus brève du passage de la perturbation.
Et une fois ce front froid passé, est-ce que le beau temps revient d'un coup ?
Pas forcément tout de suite, on entre alors dans ce qu'on appelle le ciel de traîne. C'est la masse d'air froid et instable qui suit le front. Le temps, là, est caractérisé par une grande variabilité. C'est l'alternance typique entre des averses parfois fortes, avec du grisille ou de la neige fondue en saison froide, et puis des éclaircies. Des éclaircies parfois très belles d'ailleurs, avec un ciel bleu profond entre les nuages qui bourgeonnent, les cumulus, ou des cumulonimbus plus isolés. L'air est plus frais, plus sec une fois l'averse passée, et la visibilité est souvent excellente entre les grains. Et la pression, elle, remonte. Cette instabilité de traîne, ça peut durer quelques heures, parfois un jour ou deux, avant qu'un temps plus stable, souvent lié à un anticyclone, ne s'installe. Voilà une séquence vraiment très complète. Si on devait synthétiser un peu notre exploration d'aujourd'hui, un front, c'est donc bien plus qu'une simple ligne sur une carte météo. C'est une zone dynamique, un lieu d'affrontement entre masses d'air, avec des types bien distincts, froid, chaud, occlus, stationnaire.
Chacun a ses caractéristiques, ses signatures nuageuses, les cerceaux pour le froid, les nains pour le chaud, par exemple. Et ces fronts, ils s'organisent en système, les perturbations, qui suivent un cycle de vie assez prévisible. Naissance, la cyclogénèse, développement avec les fronts qui se forment, maturité marquée par l'occlusion.
Oui, le front froid qui rattrape le chaud à cause de leur différence de vitesse. Exactement. Et enfin, la dissipation, la frontolyse. Et tout ça se traduit au sol par une séquence météo qu'on peut reconnaître. L'approche du front chaud avec ses nuages en couche et sa pluie continue, puis le secteur chaud, plus doux et calme, ensuite le passage brutal du front froid avec ses averses et rafales, et pour finir, la traîne instable avec ses averses et ses éclaircies.
C'est une excellente synthèse, oui. Et l'intérêt de comprendre ces mécanismes, ça va au-delà de la simple curiosité. Ça permet non seulement de mieux lire les bulletins, les cartes météo, mais aussi d'avoir une lecture plus informée du ciel au-dessus de nous. Reconnaître la séquence de nuages qui annonce un front chaud, identifier un cumulonimbus de front froid ou comprendre pourquoi le temps est si changeant dans une traîne. Et tout ça, ça donne des clés pour anticiper un peu ce qui va se passer.
C'est une façon de se reconnecter un peu à cette dynamique de l'atmosphère qui nous entoure en permanence.
Absolument. Ça change vraiment le regard qu'on porte sur les nuages. Et pour ouvrir un peu la réflexion, une dernière pensée. On a beaucoup insisté sur cette différence de vitesse entre front froid et front chaud comme moteur de l'occlusion et du cycle de vie. Mais les sources qu'on a consultées, elles évoquent aussi que la trajectoire, l'intensité d'une perturbation, ça dépend énormément des conditions en altitude, notamment de ce fameux courant de jet. Ça laisse songeur sur l'interaction complexe entre ces phénomènes de surface qu'on vient de décrire et puis les grands courants qui dirigent tout ça bien au-dessus de nos têtes. Comment cette interaction verticale influence-t-elle précisément la personnalité de chaque perturbation? C'est une piste fascinante à explorer peut-être une autre fois.